1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
C'est Abattant Rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. L'émission de ce soir est consacrée à la mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi dernier à Orléans, dans laquelle Victor et moi nous étions. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à toutes.
Tu as pu faire des interviews de jeunes.
Oui, j'ai pu interroger plusieurs lycéens et lycéennes, une prof, plusieurs personnes en fait, c'était assez cool.
On en entendra trois dans cette émission, ouais. Parce qu'on a des invités, nous avons des invités pour aller plus loin hein, dans l'analyse. Il y a également Léo avec nous, que je n'ai pas salué. Bonsoir Léo.
Bonsoir.
Enchanté de te voir revenir dans cette émission.
Bah, enchanté aussi.
Parfait, et tu auras certainement des choses à dire. Je disais donc, nous avons des invités dans cette émission. Jean-Marie Boutifla, bonsoir.
Salut.
Jean-Marie, plusieurs casquettes. Acteur associatif, oui. On va rappeler une ou deux associations.
Oui, je peux rapidement dire. J'étais très impliqué dans les années 80 au sein de l'ESTI.
C'est ça, hein. L'association de soutien aux travailleurs immigrés.
Voilà, avec aussi des appointances au niveau national, au niveau de la FNARS.
Bien sûr, syndical aussi.
Syndical aujourd'hui, oui, depuis récemment, enfin, au sein de l'UDIRS, donc solidaire, les VIOC, quoi.
Les VIOC. Et également politique, hein, parce que tu
également politique, des élections. Au sein de la France Insoumise.
La France insoumise. Charles-Henri Michel, bonsoir.
Bonsoir, Hassan.
Également acteur associatif, beaucoup, syndical, pas mal, politique aussi.
Un petit peu, oui.
Un petit peu. En tout cas, Charles-Henri Michel, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, peut-être à Tours, vous n'avez pas entendu parler de Charles-Henri Michel, c'est le monsieur qui a, un des messieurs qui ont initié ce qu'on a appelé les Nuits debout à Orléans. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, je crois.
Alors, on a dû se rencontrer à Nuit debout, alors en sachant que je ne suis pas forcément un initiateur, mais j'ai suivi dès le deuxième jour, en fait.
Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Et qui discutait avec des jeunes. On avait passé des bouts de discussion avec les jeunes dans cette émission. Et donc, ce soir, pour parler de cette manifestation qui a connu du monde, tous les deux, vous en avez fait pas mal. Vous plaigniez du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens rassemblés à Orléans, mobilisés souvent sur d'autres. Et là, il y a eu également beaucoup de mobilisation. On en parlera. Et pour démarrer l'émission, vous le savez, Mourad Guichard, journaliste indépendant, au téléphone avec nous, pour décrypter un des sujets d'actualité. Mourad, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan, est-ce que tu m'entends correctement?
Je t'entends tout à fait correctement.
Très bien.
Oui, pour parler, Mourad, d'un article que tu as écrit pour Street Press, cet excellent média sur le numérique, un article sorti hier qui parle d'une chose. Alors, nous sommes en 2018, hein, et alors je résume, dans un groupe WhatsApp, des cadres de la Banque Postale, basée à Orléans, échangeaient des messages racistes sur leurs collègues d'origine maghrébine, en parlant notamment de fraude aux arrêts du travail, de séminaires avec des orang-outans. Vas-y, explique-nous.
Oui, alors c'est quelque chose qui est remonté à la surface, on va dire en gros au début de l'automne 2022, qui a été donc relayé par les syndicats, notamment par Sud PTT, qui a été déposé auprès de la direction, et la direction a estimé très rapidement que c'était de l'ordre du cadre privé, puisque en fait c'était une boucle WhatsApp qui se faisait évidemment, j'espère, en dehors des heures de travail. et que ça ne concernait pas l'institution. Sauf que on a un double problème. D'abord, tu as cité quelques exemples. Il y a la violence des propos. Alors, j'en prends un exemple pour remplacer le contexte de ce que je viens de dire. Après notre séminaire avec les orang-outans, sous-entendu, des personnes d'origine africaine avec lesquelles elles ont eu à travailler, notamment sur Paris. Puis dans la savane, on voit le rapport direct, je vous propose un séminaire au Maghreb, à la recherche de nos arrêts de travail pour maladie, sous-entendu évidemment qu'ils sont partis avec un arrêt maladie pour aller se reposer au bled, style la chasse au trésor, partante, dépaysement et exotisme garanti. Mais nos demandes de rançon, sous-entendu évidemment les Arabes sont tous des terroristes qui prennent les gens en otage, risquent de ne pas être prises en charge par la banque postale. Voilà, et ces commentaires comme ça, alors, il y a des commentaires à la fois racistes comme celui-ci, il y a aussi des pauvres petits choux, point d'exclamation, ce gros con, donc on parle d'un agent des chèques postaux, se sert de la mort de son père pour se faire plaindre auprès de mon équipe. Voilà, et ça continue comme ça, on voit une photo d'un cochon à la portière d'une voiture, on dirait qui à la portière, qui, notre copain, Ralouf. Alors évidemment, il ne s'appelle pas Ralouf, mais évidemment, Ralouf, c'est Halouf, ce qui signifie cochon ou porc en arabe. Et réponse immédiate, merci, je viens d'apprendre un mot. Ceci dit, ça ne me servira pas beaucoup puisque je n'ai aucune intention de mettre le moindre orteil dans ces pays d'Afrique ou du Maghreb, MDLR, ni dans cette vie, ni la suivante, ni celle d'après. Et ça continue comme ça, de message en message en message. Alors, si ça avait été comme le suggère l'une des syndicalistes CGT des chefs postaux, si ça avait été un agent lambda, il était convoqué et
bien sûr.
Possiblement licencié pour ça, sauf que là, ce sont des cadres et pas n'importe quel cadre, ce sont des cadres supérieurs et notamment l'une d'elles est une cadre supérieure qui a une soixantaine à ce moment-là, une soixantaine d'agents sous sa responsabilité et comme on le sait et comme j'imagine très bien les invités sur en studio connaissent le délitement des services du groupe La Poste, la privatisation à marche forcée. On obtient aujourd'hui, par exemple, des enveloppes par service, des enveloppes donc financières, qui vont être distribuées aux agents en fonction de critères très subjectifs. Et donc, une part importante du salaire va dépendre du bon vouloir de ses chefs. Et quand on les entend et quand on les lit écrire ces choses-là, on se dit que forcément, il va y avoir une incidence et qu'au moment de décider d'attribuer une prime à la tête du client, eh ben, c'est personnes visées qui ont toutes comme point commun d'être d'origine maghrébine ne seront pas les mieux lotis. Ouais. Et donc il y a de ce que la banque postale appelle une discussion privée, il y a forcément une incidence sur au-delà des propos racistes et dégueulasses, parce que c'est vraiment immonde ce qu'on peut lire sur cette boucle WhatsApp. Au-delà des propos, je vous invite à aller voir les propos sur Street Press. Vraiment, il y a cette incidence, ce mépris de classe qui se traduit forcément, puisque ce ne sont que des subordonnés qui sont attaqués. Ça ne peut que se traduire par évidemment une injustice au niveau de la carrière et du salaire des personnes visées.
Ouais, tu disais tout à l'heure que la direction que tu as contactée disait que c'était dans le cadre du privé. Elle dit également cette direction qu'il y a prescription.
Alors ça, c'est complètement délirant. Alors là, ils ne l'ont pas redit parce qu'ils ont refait une ultime réponse. Alors ils ont fait une réponse, une première réponse qui était complètement, qui relevait à peu près de ça, du côté privé et de la prescription. Et puis là, ils ont fait une réponse beaucoup plus longue qui sont en train de bombarder littéralement. Alors, si vous avez Twitter, je vous invite à aller voir d'aller voir le site de Street Press, mais également d'aller voir le compte de la Banque Postale qui est en train de bombarder, donc le compte national de la Banque Postale, qui est en train de bombarder chaque tweetos qui rebalance l'article de Street Press ou qui s'indigne, évidemment, c'est pour vous qui sont indignes de cadre d'un groupe comme la Banque Postale, ils répondent par un communiqué qui commence en disant « La Poste condamne vivement la tenue du propos à caractère raciste, contraire à ses valeurs citoyennes ». On est vraiment dans les éléments de langage. Concernant les faits portés à notre connaissance sur le centre financier d'Orléans-la-Source qui ont pu blesser, évidemment qu'ils sont blessés, ils sont même révoltés. Certains de nos collaborateurs, la direction de l'établissement précise qu'il s'agit d'actes isolés dans les faits, pour autant, la direction de l'établissement, particulièrement attentive au vivre ensemble, au sein du centre, a organisé des rencontres, ainsi de suite. Et il précise, elle s'est également assurée que les deux personnes mises en cause et encore en activité n'exercent plus de fonction managériale et ne soient plus à l'avenir en contact avec des personnes du centre. Et la Poste rappelle son attachement aux valeurs de citoyenneté, de tolérance, patati patata.
Tout ça me semble un peu facile.
Voilà. Oui. Alors, elle laisse clairement entendre que, suite à ses propos, Et c'est comme ça, on ne peut pas l'interpréter autrement. Mmh. Suite à ces propos, ces deux personnes ont été sanctionnées, sauf que après recherche, nous sommes en capacité de dire que c'est absolument faux. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas, c'est pas approximatif, c'est un mensonge. La Banque Postale ment sur la situation actuelle, à savoir qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait que ces deux agents aient eu des parcours qui ont effectivement bougé, mais pas du tout de sanctions, et les faits qui leur sont reprochés par les syndicats, à savoir Sud PTT et la CGT. Ouais. Donc voilà, il y a un mensonge que nous allons évidemment débunker dès demain, et sur lequel nous allons revenir sur Street Press pour raconter la réalité des faits et pas du tout cette espèce d'impression fausse que laisse se communiquer qu'il y a eu sanction d'une part, ce qui est faux, je le dis, hein, factuellement c'est faux, et que d'autre part c'est lié à cette, que les mouvements, comme il y a des mouvements dans toutes les entreprises, serait lié à cette affaire, c'est qui est encore plus faux. Voilà.
Le syndicat Sud PTT, qui a donné l'alerte, hein, se réserve le droit de porter l'affaire devant les tribunaux.
Ah bah ce serait, je pense que, alors je leur laisse faire, mais ce serait évidemment tout à fait motivé, puisque je vous dis, enfin, vraiment, je vous invite à aller lire sur Street Press les propos qui sont tenus, sont absolument intolérables, insupportables. À la limite, je veux dire, bah, c'est même pas la limite, mais c'est, on dirait vraiment des propos de beauf pochetronné. Qu'aurait été jeté du RN pour racisme excessif.
Mais c'est exactement
là,
ça.
Là, on a des cadres supérieurs de la boîte. Et l'un des responsables nationaux CGT de la des services postaux m'explique que voilà, la privatisation de la Banque Postale a conduit à rendre ces fameux chefs de service autonomes avec des pouvoirs complètement démesurés. Et du coup, ils se sentent, comme le dit lui-même, ils se sentent pousser des ailes et de facto ils se permettent des choses comme ça qui se seraient peut-être pas permis il y a quelques années. Et je termine juste sur ça. Beaucoup d'agents et beaucoup de cadres que j'ai eus me disent qu'ils pensent très fortement au passage de France Télécom à Orange qui avait conduit à une vague de suicides.
Oui,
le président de l'époque avait parlé d'une mode des suicides avec un sourire, ce qui d'ailleurs il a été condamné en appel récemment. Mais ça leur rappelle ça, quoi. Ça leur rappelle cette dureté-là du management, et ils craignent que si on n'intervient pas rapidement sur ce genre de dérapage, on risque d'arriver à des choses irréversibles.
Tu disais que tu vas suivre cette affaire. Je te fais confiance. Oui. On va rappeler que cet article est sorti chez Street Press. Un mot sur Street Press pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Oui, c'est un site qui travaille beaucoup sur ces questions de discrimination, sur les questions de violence policière et sur l'extrême droite. D'ailleurs, le hasard du calendrier fait que tous les mardis, ils sortent une série de newsletters notamment et des papiers relatifs à l'extrême droite. Et bing, ça tombe aujourd'hui sur Orléans.
Sur Orléans, j'ai
vu. Un portrait, voilà.
D'un monsieur dont nous avons parlé dans cette émission.
Nous avons parlé à plusieurs reprises, voilà, et qui se remet à faire donc Goldofaf. C'est son surnom, et qui se remet à faire
du rap, du paraît. Identitaire. Il paraît qu'il fait du rap.
C'est affligeant culturellement, mais ça dit beaucoup du fait qu'ils avaient indiqué qu'il avait changé et que c'était derrière lui, et qu'en fait, non, on perd jamais, hein, et on revient finalement à ses premières amours quand on a évolué aussi longtemps dans ces milieux identitaires et d'extrême droite.
Street Press, à lire et à aider également, parce que Street Press fait travailler des journalistes et qui sortent de belles affaires comme Mourad. Donc, peut-être la semaine prochaine, hein, on continue à parler de ça, en tout cas, en partie.
Oui, avec grand plaisir d'une part. Et puis, j'en profite pour saluer, puisque j'ai lu un commentaire de notre ami Fabos sur Twitter concernant Bourdieu à propos de la nouvelle jeune femme qui va représenter Jeanne d'Arc et qui, pour une nouvelle fois, et je pense que c'est l'objet d'une enquête, pour une nouvelle fois, ce qui a un peu échappé visiblement aux médias locaux qui sont complètement emballés sur son profil, et de nouveau de Saint-Charles, ces pages sont des scouts dans le meilleur des cas d'Europe, mais surtout des scouts marins. Et quand on connaît le positionnement politique de ces mouvements, il y a quand même de quoi un tout petit peu s'inquiéter, sachant que la tradition orléanaise était une année d'avoir une jeune fille qui vient du public, une autre fois du privé. Et là, depuis plusieurs années, non seulement elles viennent toutes du privé, mais en plus de Saint-Charles, et avec des profils et parfois des dérapages, notamment au moment du mariage pour tous, et des collusions avec l'extrême droite locale qui commencent un tout petit peu à interroger sur sur le fait de savoir si ça peut continuer comme ça.
Je sens qu'il y a un décryptage là-dessus la semaine prochaine. Hein, Mourad, en tout cas, merci.
Nous en parlerons avec grand plaisir.
Avec plaisir. À très bientôt. Un petit mot, très court. Nous allons parler de la manifestation, de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'était jeudi dernier. Tu y étais. Pour la première fois à Orléans, il y avait autant de monde que ça. On dit quoi, 16 000 personnes, hein, dit la police.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Mais
il disait 12 000. Certains médias locaux avaient complètement amoindri, puis finalement ont réalisé le ridicule du chiffrage et sont montés jusqu'à effectivement un peu plus de 12 000. On était raisonnablement entre 15 et 18 parce que c'est simple, hein, la Rue Jeanne d'Arc était saturée.
C'est vrai.
Et pour arriver à saturer la Rue Jeanne d'Arc avec des gens qui ne sont pas encore partis alors que d'autres sont déjà rentrés dans la rue des Carmes, il faut un certain nombre de personnes. Et je pense que les personnes présentes, notamment Jean-Marie, ne vont pas me contredire sur ce comptage-là.
Méfie-toi.
Voilà. Et effectivement, depuis, on va dire que, en gros, depuis, alors, si on prend le mouvement social, effectivement, ça doit remonter à, c'est bien supérieur à 2010, mais il faut remonter récemment à Charlie Hebdo. Voilà, Charlie Hebdo, mais là c'était beaucoup plus. Mais il faut remonter à Charlie Hebdo pour avoir quelque chose de. Là, on était juste derrière Charlie Hebdo en termes de participation. C'était vraiment très important. Alors moi, je ne me prononce pas dessus. Et je n'ai pas écrit dessus pour une raison très simple, c'est que j'étais, étant syndiqué SNJ, syndicat des journalistes CGT, je, pour l'une des premières fois, je défilais en tant que syndiqué, en tant que travailleur, et pas en tant que journaliste en reportage.
Eh bien, reste bien à l'écoute de cette émission, nous allons parler de cette manifestation. À très très vite, Mourad, à mardi prochain.
À très vite, ciao. Oui, bonne soirée, avec grand plaisir.
Allons-y.
Oui,
pourquoi normalement ça fait.
À bâton rompu, oui. Avec Hassan Kerim.
Mais c'est ici, et nous allons parler tout de suite de cette manifestation. Ah, bah oui, c'est tous ensemble. C'était jeudi dernier, donc jeudi matin, entre 10h, c'était 10h, hein, le cortège est parti à 11h, je crois.
J'ai
entendu c'était... Victor que tu te plaignais, il faisait froid, tout ça.
Ah oui. Il faisait très froid, mais bon, c'était quand même assez impressionnant de voir toute cette masse de personnes qui étaient sur le parvis de la cathédrale et dans la rue Jeanne d'Arc, du coup. Mais c'était très impressionnant. Ouais. Mais effectivement, le rendez-vous était prévu pour 10h30, mais je pense qu'il y avait tellement de monde qu'au final, on n'a pas réussi à partir avant un bon 11h15, je pense.
C'est exactement ça. C'était un appel intersyndical, donc tous les syndicats avaient appelé à manifester. Le secrétaire départemental de la CGT, Pascal Sudre, que j'ai rencontré, était vraiment fier d'avoir autant de monde dans la rue. Écoutez-le.
Quelque chose d'assez incroyable. Alors même si on savait que ce matin et dans toutes les villes de France, il y aurait du monde, parce que les retours qu'on avait eus jusqu'à présent de nos bases syndicales et de nombreux salariés qui nous avaient appelés toute la semaine pour nous demander comment fallait faire pour faire grève. Donc on savait qu'il y aurait beaucoup de monde. On estimait à peu près le nombre à au moins 10 000 aujourd'hui. Mais le décompte qu'on a fait dépasse nos prévisions, mais de très très loin. On annonce aujourd'hui 25 000 manifestants à Orléans. C'est du jamais vu pour une première mobilisation. Et ces chiffres-là, on les retrouve dans les grandes mobilisations qu'il y a eu, par exemple en 2005. Mais on était aussi nombreux dans un processus déjà bien engagé au bout de 3 semaines. Et c'est quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Et comme j'ai pu le déclarer tout à l'heure au micro, de voir le sourire des gens, l'espoir renaître, c'est vraiment de bon augure. Et pour nous, la CGT, bien sûr qu'on s'en félicite, mais on félicite surtout l'ensemble des salariés qui se sont manifestés et qui se sont mobilisés aujourd'hui. Parce que c'est eux qu'il faut féliciter. Nous, syndicalement, on fait notre travail. C'est notre rôle d'impulser, de coordonner. Mais aujourd'hui, si c'est une réussite, c'est parce que dans les entreprises, les services et les établissements, l'ensemble des salariés, mais pas que, parce qu'il y avait aussi des retraités, des privés d'emploi, ils ont pris conscience que c'était nécessaire et important aujourd'hui de se mobiliser parce que les gens n'en peuvent plus aujourd'hui. Et le signal est fort. Et si le président de la République et la première ministre, Mme Borne, n'entend pas, eh bien on continuera jusqu'à bloquer le pays. Et si le pays est bloqué, ce ne sera pas de notre responsabilité. La seule responsabilité à mettre du côté du gouvernement, qui veut nous imposer à marche forcée une réforme qui n'a de réforme que le nom, parce que ça ne va pas dans le sens du progrès. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une contre-réforme qui s'attaque de nouveau aux droits de celles et ceux qui n'ont déjà plus rien.
25 000 manifestantes et manifestants, hein, selon les syndicats, mais 16 000, selon, selon la police, bien évidemment. Pascal Sudre qui annonce que le mouvement va continuer. Normalement, c'est mardi prochain, une nouvelle manifestation à Orléans, un peu partout en France. Bruno Chirous, de la FSU, que j'ai rencontré également, ne dit pas autre chose. Il a envie que le mouvement durcisse, mais j'ai tenu absolument à ce qu'il nous disent ce qu'il y avait dans cette réforme qui n'allait pas écouter, Bruno Chirous.
Il n'y avait pas d'urgence à réformer, et surtout de cette manière. Le financement des retraites pour l'instant est excédentaire. On sait qu'il sera légèrement déficitaire à un moment donné, mais pas de façon à ce que l'annonce au gouvernement, et en tout cas pas en prenant une réforme telle qu'elle est prônée là.
Alors le gouvernement dit quand même qu'il a consulté, qu'il a discuté avec les syndicats, c'est pas le cas?
Si, il a consulté, ouais, mais il n'a pris aucunement nos propositions d'autres financements. En fait, ils ne veulent pas ponctionner les évasions fiscales, les paradis fiscaux, les exonérations des cotisations des patronats d'entreprise, qui rapporteraient tout ça 80 milliards d'euros, et ce qui permettrait de financer, y compris le pire scénario du corps qu'évoque le gouvernement, ce qui n'évoque pas le scénario moyen, mais il évoque le pire. Là, c'est l'excédentaire, il va y avoir un léger déficit entre 2027 et 2030. Il reviendra à l'équilibre en 2030, et de 2035 à 2070, il s'autofinancera, il sera pérenne. Donc il y a des petits ajustements à faire, et en tout cas pas en prenant une réforme comme ça, parce qu'une réforme comme ça, statutaire, elle met à mal les carrières longues qui devront partir plus tard, les carrières courtes qui n'auront pas une pension totale, alors que d'autres financements existent. Tout simplement, on met en avant l'égalité salariale femmes-hommes. On augmenterait les salaires des femmes pour qu'elles arrivent à la hauteur des hommes. On aurait un bagage de 5,5 milliards d'euros sur les salaires pour financer les cotisations retraite. Donc vous voyez, déjà, il y a un bagage là avec une égalité. Le gouvernement fait un choix politique de diminuer les finances publiques, donc de ne pas augmenter les salaires pour ne pas financer nos retraites. En résumé, c'est ça, d'appauvrir la population et d'appauvrir nos retraités avec une pension restreinte.
Oui, Bruno Chirous de la FSU, sur l'ampleur de cette manifestation, Jean-Marie.
Oui, moi j'ai pas mal de choses à dire derrière les interventions. Je souscris totalement aux objectifs de la FSU et la CGT en tant que syndiqué moi-même, puisque effectivement c'est une première, historiquement parlant, une première qu'on ait réussi à une telle unité. Et l'unité dépasse largement le cadre des syndicats, puisque effectivement il y a eu cette manif à Paris, la marche à Paris de samedi, qui a été un succès. On ne va pas discuter des chiffres sur Paris parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Mais il y a effectivement une dynamique qui se crée et qui n'est pas que... Alors d'accord pour dire que ce soit les syndicats qui doivent être en avant de cette retraite qu'on n'accepte pas. Mais l'union plus générale avec les organisations politiques me paraît tout à fait intéressante. Alors maintenant, sur le nombre à Orléans, c'est vrai que n'oublions pas que dans les campagnes, les villes moyennes, notamment les sous-préfectures, il y a eu aussi du monde, y compris sur Orléans, sur le Loiret. Donc il y a une mobilisation très forte. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, qui nous fait penser à 1995. Il y a quand même quelques souvenirs autour de la question de la retraite, justement.
Et le rapprochement est fait, évidemment, sur 1995. Oui, et ce que tu disais est complètement vrai. On écoutera tout à l'heure des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes dans cette manifestation. Il y avait également, moi j'ai pu rencontrer des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie et qui disaient c'était très important pour moi d'être là et je reviendrai. Donc voilà, il se passe quelque chose peut-être, Charles-Henri ?
Ah ben on espère. On espère. Il y en a beaucoup qui luttent depuis des années, des décennies même pour effectivement essayer de renverser le sens des choses, parce que c'est vrai et le pire malgré ça, c'est qu'on y va, quoi. Ouais. On va droit dans le mur, ça continue et ça peut plus, c'est pas possible. Là, il y a une grande majorité des personnes qui sont contre cette contre-réforme, effectivement, comme c'était bien dit, et malgré ça, le gouvernement s'entête alors qu'il est, enfin, il représente plus que lui-même, quoi, quasiment. Enfin, c'est... Donc, il est temps, effectivement, que les gens deviennent acteurs, vraiment, de ça. Et c'est... Enfin, il y a effectivement quelque chose qui se passe. C'est à nous tous de l'alimenter et à nous tous de se dire que... Il est plus que temps de conjuguer tout ça au pluriel, quoi. Ouais.
Je disais tout à l'heure qu'on s'était croisés, mais peut-être avant, hein, pour Nuit Debout. Je sais aussi que tu as participé au mouvement des Gilets jaunes. C'est différent aujourd'hui, ce qui se passe, cette mobilisation-là. Et pourquoi ces deux mouvements avant, Nuit Debout et Gilets jaunes, n'ont pas vraiment marché ici, dans le Loiret?
Alors là, je ne sais pas trop. Alors, on n'est pas non plus une terre de lutte, hein, trop. Enfin,
on n'est pas trop reconnu. Ça que non.
On n'est pas trop reconnu pour ça. Donc déjà, effectivement, moi, c'était en 2016 où on s'activait à animer effectivement ce mouvement de Nuit Debout qui a duré plusieurs mois quand même. On était place du Martois puis un peu place de Gaulle pendant des, enfin, les jours se succédaient. Quoi. On a essayé d'œuvrer, voilà, jusqu'en septembre. Ça a commencé début avril et puis l'été ça s'est calmé. Puis après, on a essayé de relancer en septembre sans succès. Un an plus tard, Macron a été élu. Bon. Ouais. On a essayé, nous, après Nuit Debout, on voulait créer une université populaire avec plusieurs membres de Nuit Debout, avec aussi des acteurs sociaux, des animateurs sociaux culturels. Enfin, voilà. On n'a pas réussi. On a fait juste une page Facebook qui persiste aujourd'hui, une université populaire Orléans et ses environs. Mais bon, voilà, ce n'est pas du tout une page... C'est pas du tout une université populaire, mais voilà, ça, le but c'est en tout cas de faire connaître.
On y lit des choses intéressantes quand même. Amis auditeurs et auditrices, allez voir. Université populaire, Orléans et ses environs. Hein.
Voilà, on essaye en tout cas de mettre la lumière sur les acteurs locaux qui se bougent, sur les mouvements. Donc voilà, et sont évoqués tous ces. Et puis des questions de société qui nous semblent importantes d'évoquer. Et encore une fois, c'est un groupe, hein, c'est un groupe, tout le monde peut y être acteur. Donc voilà. Mais ensuite, les Gilets jaunes, c'était encore un autre mouvement. C'était spontané. Moi, j'ai mis 3 semaines pour me décider à y rentrer parce que je ne savais pas exactement ce que c'était. J'étais moi-même en grève au boulot à ce moment-là. Donc c'était compliqué. Mais mouvement des Gilets jaunes, j'avais peur, moi, que ce soit effectivement noyauté par l'extrême droite au départ. Oui.
Et ça ne l'était pas.
Pas vraiment. C'était vraiment quelque chose de spontané. Il y avait effectivement des membres d'extrême droite et puis des. Et voilà, ça s'est avéré jusqu'à la fin d'ailleurs. Ça a été un mouvement qui a été compliqué pour ça, mais qui était peut-être plus populaire que celui de Nuit Debout dans le sens où ça allait de l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà. Alors, par contre, le centre était un petit peu absent, forcément, de ce mouvement. Mais enfin, voilà, on a essayé. Et puis, notamment, moi, ce qui m'a porté, c'était d'être actif sur Orléans. Voilà, avec plusieurs, on a essayé d'attiser les braises pour encore une fois changer ce rapport à la société que l'on peut avoir aujourd'hui, quoi.
Ben oui, bien sûr. Et Jean-Marie, il y avait voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, j'allais dire, il y a eu quand même une période où on s'est connus. Tu as parlé tout à l'heure de l'ASTI, hein, où tu étais très actif. Il y avait des manifestations à Orléans, il y avait des groupes sociaux qui se il y a même un forum des droits humains à Orléans qui rassemblait tous des gens qui disaient ce qu'ils pensaient de la société. Et pourquoi ça s'est arrêté à un moment?
Je ne sais pas si ça s'est arrêté. Ce qu'a dit mon ami Charlie est juste, à savoir que c'est compliqué à Orléans. C'est compliqué. À la fois, c'est une ville très, très, très ancrée à droite, la région, le département, enfin le département également. Mais moi, quand je suis arrivé sur Orléans en 1981, je viens du Nord, enfin du Pas-de-Calais, j'ai découvert des groupuscules très, très actifs.
Très actifs.
Hein, ouais, dont j'ai fait partie et j'ai continué à en faire partie aujourd'hui. Mais c'est difficile en même temps. C'est difficile parce que ça reste un petit peu groupusculaire. Et faire bouger la population, moi je compte beaucoup sur cette mobilisation citoyenne autour de la retraite parce que là, ça atteint le cœur de chacun. Et si ça atteint le cœur de chacun, on peut espérer effectivement qu'il y ait une mobilisation très forte et très large, bien au-delà des organisations syndicales, politiques, associatives et le citoyen lambda, effectivement. Alors, je voulais, si je peux rajouter, et ça complète un peu ce qu'a dit mon ami Chirouz et aussi Pascal Sudre de la CGT, l'argent, c'est un prétexte aujourd'hui.
L'argent est un prétexte. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 157 milliards d'euros d'aide publique distribuée aux grandes entreprises sans contrepartie, non, non, c'est inadmissible qu'on nous fasse la leçon en disant effectivement il manque d'argent. Il manque pas d'argent. Et le corps, hein, le corps dit bien que ce déficit effectivement prévisionnel dans les quelques années, là, 10 à 13 milliards peut-être, ça peut se rattraper. Hein, ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un faux prétexte.
Le corps, c'est ce sont des spécialistes qui travaillent sur les retraites et qui disent que le système n'est pas déficitaire pour l'instant. Donc de l'argent, il y en a. En
fait. Exactement. Et il faut aller le chercher là où il est. Ouais. Hein, mon ami Chirouz a dit, hein, il faut aller chercher dans les paradis fiscaux aussi. Hein, on pourrait faire une émission là-dessus. Hein, oui. Bon, on va pas, c'est pas le but de ce soir, mais je crois qu'effectivement, arrêtons. Hein, de toute façon, le gouvernement est un gouvernement hors sol. Macron. À part derrière son bureau, à part derrière son hégémonie, dans sa façon de procéder, hein, de prendre des décisions à lui tout seul et d'embarquer du monde autour de lui, il ne sait pas faire. Bon, et là, le peuple, franchement, et moi, je travaille beaucoup, comme d'ailleurs toi, Charlie, sur les quartiers populaires. Et moi, je crois que là, il y a un travail à faire que je fais, moi, par ailleurs. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi président d'une association du lien social sur les quartiers nord d'Orléans. Bon, voilà. Et je crois qu'il y a un éveil possible. Il y a un éveil possible. Hein, c'est de l'éducation populaire. Hein, et je pense que Macron, à sa place, je me méfierais. Parce que je pense qu'il va y avoir un soulèvement. Moi, j'y crois beaucoup.
Léo, Charles-Henri, avant, et Léo, je te demanderai tout à l'heure si tu étais à la manifestation ou ce que tu en as pensé.
Oui. Alors, peut-être d'abord Léo.
Alors, moi, je n'y étais pas.
Oui.
Parce que.
Non, mais.
Mais justement, je voulais.
Pas d'excuses. Pas
d'excuses. Non, mais non, mais c'est, je voulais y venir justement, en fait, c'est que. Il y a une chose, moi, en tant qu'étudiant, en fait, où je me rends compte, après, encore une fois, ça dépend de là où on grandit, en fait. Quand on a une famille politisée ou non, des fois, c'est un peu difficile aussi de se lancer dans les manifs. Mais un truc que j'ai remarqué aussi quand on est étudiant, en fait, c'est qu'on a très peu de... On nous fait énormément comprendre, en fait, que les manifestations, c'est difficile pour nous parce que on rate des cours.
Oui.
Donc, en fait, se déplacer, en fait, on nous explique très souvent que si on n'est pas présent à certains cours, si on n'est pas assidu, on est déficient à la fin du semestre et on valide pas nos années. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on a une espèce de pression administrative et scolaire, en fait, autour de nos études. Qui font que réussir à se lancer et à assumer le fait d'aller dans une manifestation, des fois, c'est un peu difficile.
Ouais, ça
parce que, du coup,
ouais, ça s'entend. Mais oui, du coup, ton micro a un petit souci, mais
ouais,
bon,
c'est
voilà.
Ce que j'ai l'impression.
Oui, mais bon, je crois que c'est le. Non, mais voilà, très bien. Non, mais on a bien entendu ce que tu voulais dire. Mais alors là, mais globalement, tu as quand même une opinion sur ce qui s'est passé, ce qui se passe.
Ah bah oui, bien sûr.
Que, tu as vu l'ampleur de la chose. Est-ce que ça. Ça rejoint quelque part des luttes que tu as envie de faire.
Bah, en fait, en général, les retraites, ça touche vraiment absolument tout le monde.
Oui.
Et c'est surtout que moi, du coup, ma mère est de la génération qui, subit, entre guillemets, cette contre-réforme, comme on dit. Et en fait, c'est vrai que moi, du coup, je la vois concernée par ça. Et en même temps, en fait, ça, nous, notre génération, en fait, ça nous pose la question, en fait, de jusqu'à où ça va continuer.
Bien sûr.
Jusqu'à quel âge, nous, on va travailler. Est-ce qu'on va travailler jusqu'à,
mourir, quoi. Est-ce que tu auras une retraite?
C'est ça, en fait. C'est la grande question. Et c'est vrai que ça éveille tout de suite quelque chose, même si on n'a jamais été très concerné par des manifestations. C'est vrai que la retraite, même moi, en fait, ça, je pense que je parle aussi au nom de beaucoup d'étudiants, et peut-être ceux que Victor a interviewés, où, en fait, c'est vrai que...
Oui, c'est ça. Il fatigue à un moment. Vas-y, pour le.
J'arrive.
Celui, oui.
Voilà, c'est mieux.
Oui, celui-là, on l'entend.
Et du coup, c'est vrai que je pense parler au nom de quand même pas mal d'étudiants. C'est vrai que c'est inquiétant quand même de. On se demande où est-ce qu'on va aller, nous, en fait, parce que du coup, on est un peu la génération. On attend beaucoup, énormément de choses de nous et de l'avenir, machin, tout ça. Mais c'est vrai que la grande question, c'est jusqu'où est-ce que ça va aller, jusqu'où est-ce qu'on va s'arrêter, et puis quel avenir, nous, on a dans le monde du travail et. Comment on va réussir à se débrouiller?
Oh là, comment je comprends ça, Charlie?
Oui, non, simplement dire que je peux que soutenir ce qui a été dit. Pour la retraite, ça va bien au-delà. Enfin, c'est pas le rapport qu'on a à la vie, tout simplement. Je pense que moi, je fais partie de ceux qui ont décidé de prendre ma retraite avant. j'ai bossé vraiment à temps plein, moi, à l'âge de 29 ans. Je faisais des études et je bossais à côté. Et donc, ma retraite, moi, j'y pense pas trop. Par contre, je travaille dans une collectivité locale, dans une mairie. et donc dans une mairie où il y a une centaine de métiers différents. Et là, je peux constater que tous les métiers ne sont pas sur le même pied d'égalité, dans le sens où les métiers sont plus ou moins durs. Mmh. Et donc, j'ai plein de collègues qui, à 55 ans, se demandent comment ils vont arriver jusqu'à 60 ans. Ouais. Et donc, et évidemment, ce sont ce qu'on appelait les premiers de corvée à l'époque, qu'on a un peu oublié depuis. Là, je parle au niveau national. Quoi. Le président, il en parlait à qui voulait l'entendre, mais voilà, il a rien fait pour changer la donne. Et là, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, quand ils atteignent 60 ans, ils sont usés. Oui. Il y a des stats de l'INSEE, là, 2020, là, qui disaient que l'espérance de vie en bonne santé, c'était 64, et quelques pour les hommes, 65 et quelques pour les femmes. Mmh. Donc, on cherche quoi ? C'est quoi le rapport que l'on a par rapport à la société, enfin voilà, le contrat social quoi, qu'il faut repenser. Quoi.
Quelle société on veut, hein, c'est ça pour l'avenir, c'est ça que tu veux dire ?
Exactement.
La retraite, c'est 60 ans et pas au-delà.
C'est clair.
Vas-y, Charlie.
Oui, par contre, je voulais revenir sur la pression là, qui est faite sur les étudiants, et ça, c'est quelque chose quand même que nous, on ne connaissait pas il y a quelque temps, quoi. Quand on était étudiant, il n'y avait pas cette pression-là. Nous, il y avait même des profs qui nous disaient « Allez, vous allez apprendre énormément en manif. Ouais. » Là, effectivement, on est sur des... Mais c'est fou. Ouais. Et cette pression, elle est liée effectivement au monde du travail. Mmh. Elle découle sur les étudiants, surtout les syndiqués, oui. Les syndicalistes. Mmh. Là, nous, on a fait des listes. Il y avait les élections professionnelles cette année. Il se trouve qu'on était le seul syndicat, donc CGT, pour ne pas le citer, présent. Alors pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Les gens, ils ont aussi peur. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est aussi le syndicalisme qui n'est plus tout à fait à la page. Peut-être. Mais il y a aussi une peur évidente des pressions qui peuvent s'exercer contre ceux qui se syndiquent. Et ça, il faut qu'on soit hyper vigilant. Notre société, elle est quand même en train de se sécuriser à outrance. Et on voit de toute façon l'opinion publique... qui tend vers des idées qui ne sont pas forcément très jolies.
Victor ?
Oui, moi, j'ai des souvenirs de la fac de droit où, effectivement, si jamais on ratait un TD sans justificatif, on était exclu des examens à la fin de l'année. Quoi.
Ah, oui, alors justement, alors nous, on était en histoire et on venait en fac de droit, justement, pour vous... on venait en fac de droit pour vous... Voilà.
Ouais, malheureusement, du coup, c'était compliqué.
Allez.
Après... Je voudrais revenir aussi sur un truc. À mon avis, il y a aussi une pression qui s'exerce sur les jeunes, pas seulement uniquement vis-à-vis des études, mais vis-à-vis aussi de la répression. C'est-à-dire que ces dernières années, on est quand même passé à un niveau de répression qui est quand même assez violent. Mmh. Enfin voilà, les grenades de désencerclement, les flashballs,
c'est
etc.
La folie.
C'est
la folie.
Voilà, maintenant on perd des yeux quand on va en manif. Mmh. Je comprends du coup quand même qu'il y a une certaine partie des jeunes qui ne soient pas très très chauds pour pouvoir aller en manif à l'heure actuelle. Bon, ce n'était pas le cas de la manif de jeudi parce qu'elle était bien encadrée, qu'il y avait les syndicats, etc. et tout. Ce n'était pas une manif sauvage. Mmh. Mais voilà, la pression sur les jeunes, elle est quand même particulièrement forte aujourd'hui. Quoi.
Et le pire, c'est que c'est... Enfin, sur les jeunes, mais pas seulement. Mmh. Alors, sur les jeunes, ça s'est vu lors des manifestations des lycéens où il y a eu là du flashball qui a été quand même à Saint-Jean-de-Bray, il y a quand même un lycéen qui a été bien abîmé. Mais sinon, c'était à Jacques Monod, enfin devant. Et sinon, c'est sur les citoyens en général, sur les activistes, sur des militants, sur des syndicalistes. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, d'ailleurs, hommage à eux, enfin tous ceux qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains. C'était la folie. Je suis allé, moi, juste deux fois en manif à Paris. Je me suis fait une fois matraquer. Enfin voilà, moi, ça va. C'est pas pour parler de. Mais cette violence, c'est incroyable. Ça, c'était une manif qui était quand même déclarée. Enfin voilà, on a atteint un niveau effectivement de violence institutionnelle du coup là.
Mmh, bien sûr.
Et qu'on ne nous parle pas des Black Blocs. Les Black Blocs, moi, on avait moins peur des Black Blocs que des forces de l'ordre. Mmh. Et d'ailleurs, on parle beaucoup plus encore une fois aujourd'hui des forces de l'ordre. Et gardien de la paix, par contre, on en parle beaucoup moins. Quoi. Enfin, là, il y a aussi un truc à réfléchir. Quoi. Force de l'ordre et gardien de la paix.
Il y a absolument un distinguo. Victor a rencontré... Oui,
simplement pour ajouter à ce qui a été dit, c'est que le gouvernement, encore une fois de plus actuel, Macron et sa compagnie, nous a quand même asséné des lois très coercitives sur les libertés individuelles. Hein. Et ça dure depuis 2 ans. Hein, on avait pas mal monté des initiatives sur Orléans avec un collectif qui s'appelait Collectif des jours heureux, au demeurant, qui partait effectivement de cette, je ne sais plus le nom exact de la loi. Donc je crois qu'effectivement, faisons très attention à ça. Hein, y a une coercition continue de la part du gouvernement. Alors j'aurais ajouté un truc, moi, quand même, et pour élargir un petit peu aussi la question de la grève. Notre ami Macron traverse une folie, je dirais une folie économique, qui va effectivement jusqu'à des mesures austéritaires à l'égard des travailleurs et donc pour nous faire travailler plus longtemps. Mais c'est aussi pour fermer des lits d'hôpitaux, détruire toujours de plus en plus les services publics. Voilà, il y a bien quelque chose qui est en train de se construire là. Hein. Ne nous y trompons pas. Et je pense que quand le peuple descend dans la rue, il doit aussi s'imprégner de tout ce contexte. Et c'est là où, à mon avis, la manifestation du 19, celle du 31, l'union avec les organisations politiques au Sénat, NUP, etc., sont prometteurs de quelque chose qui, à mon avis, devrait pouvoir être pris en considération.
Et pour tous les acteurs, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une possibilité, là, c'est ce qu'on appelait, nous, avec Nuit Debout, la convergence des luttes. Là, il y a un dénominateur commun. Ça nous concerne tous, effectivement. Nuit Debout, Gilets jaunes, il n'y avait pas beaucoup les quartiers populaires, non. Parce qu'ils se font tabasser depuis 40 ans. Dans les cités, enfin dans les banlieues françaises. Et là, il y a, voilà, tout le monde est concerné. Donc voilà, et il faut effectivement faire attention à ne pas avoir peur. C'est-à-dire, c'est le nombre qui fera notre force. Et voilà, il y a un petit slogan là que j'aime bien, moi, c'est plus on sera dans la rue, moins on l'aura dans le cul. Et ça, on le revendique.
Victor a rencontré des jeunes pendant la manifestation. On va les écouter maintenant. Je crois qu'il y a Erwin, Emma et puis une inconnue. On écoute d'abord Erwin sur la raison de sa présence dans la foule, parmi les manifestants. Pardon.
Je suis là pour me battre contre la réforme des retraites, puisque c'est vraiment une réforme, une contre-réforme, hein, qui veut qu'on travaille plus tard, qu'on soit payé moins.
Et c'est quoi du coup le but aujourd'hui? C'est de marquer le coup? C'est de faire plier le gouvernement?
Je pense que c'est le coup de départ d'un mouvement qui va prendre de l'ampleur. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment très très nombreux et c'est un bon signe pour la suite.
Je m'appelle Emma.
Dis-moi pourquoi tu es là aujourd'hui?
Parce que je suis contre cette réforme qui va juste nous user jusqu'à l'os pour les autres. Et qu'il y aurait plein d'autres façons de régler ce problème que décaler l'âge plus loin qu'il est déjà actuellement.
Tu es membre d'une organisation politique ou syndicale?
Non, pas officiellement, mais là, je marche avec la FI actuellement.
Et que 22 ans aujourd'hui, je me sens concernée, je me sens solidaire aussi de ceux qui auraient dû partir à la retraite dans un futur assez proche et pour qui c'est repoussé.
Et tu penses que la mobilisation va prendre ou pas?
On voit déjà ici à Orléans, d'habitude, on n'a pas autant de monde quand il y a des mobilisations. Donc oui, ça donne de l'espoir et j'espère que la grève va continuer, que les gens vont continuer à se mobiliser dans la rue. Et puis il y a déjà une manifestation qui est organisée samedi à Paris. Donc je vous invite à vous mobiliser.
C'était une manifestation à l'appel de mouvements de jeunesse qui a bien, bien, bien fonctionné également. Mmh. Il y avait énormément de monde. Quelqu'un m'a dit, je l'ai lu quelque part, en disant que le gouvernement n'a pas forcément peur des grèves, des entreprises, des usines qui ferment. À terme, ils se disent que les salariés auront des problèmes de fin de mois. Par contre, ils ont très peur des jeunes qui bloquent les lycées, les universités. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie?
Ouais, alors, c'est juste hein, ce que tu dis par rapport aux jeunes. On sent bien qu'il y a un encadrement assez coercitif également au niveau des jeunes. Aujourd'hui, dans les lycées, il y a deux manifestations la semaine dernière, je crois. Okay. Mais je pense que ce dont a peur le gouvernement, Elisabeth Borne le dit très clairement, c'est le blocage du pays. Et je crois que les organisations syndicales ont un rôle à jouer là-dessus, et elles le jouent, hein, voilà, parce qu'on peut aller jusque-là. Et je pense que ça peut être ça aussi, l'avenir de ce mouvement, tel qu'il va se développer, jusqu'à un blocage. Et actuellement, ce blocage existe déjà dans les entreprises d'énergie, notamment, je crois, enfin, je ne sais plus ces jours-ci, j'ai noté ça. Et je pense qu'effectivement, effectivement, c'est important. Et c'est important. Et je pense que sur ce terrain-là, il faut effectivement faire peur au gouvernement. Moi, je crois. C'est défendre son outil. C'est pas travailler plus pour gagner moins. Ce qu'a dit tout à l'heure Charlie est très juste au niveau des personnes qui atteignent un certain âge et qui ne prendront pas leur retraite de toute façon ou qui apprennent avec des maladies qui s'affichent au moment du départ en retraite. C'est effectivement. Donc là-dessus, je pense que effectivement, encore une fois, le gouvernement doit prendre en dimension tout ce qui est en train de se construire.
Et après, si je peux me permettre, absolument. Il y a le gouvernement effectivement qui doit prendre ses responsabilités, mais bon voilà. Là, je suis pas sûr qu'on y arrive. Par contre, il y a nous aussi, nous en tant que citoyens, de nous réapproprier tout simplement la politique. Et ça, je pense que c'est important, d'où cette idée d'éducation populaire, mais à visée de transformation sociale, encore une fois, pas. De vraiment prendre conscience que l'on peut agir, que le collectif peut tout faire. On peut tout changer avec le collectif. Et qu'il y a possibilité de s'engager. Moi, il y a possibilité de s'engager. Si on n'est pas content d'un parti, on peut s'engager dans le collectif, dans des collectifs. Il y a plein de choses. Et même sur Orléans, cette ville qui n'est pas une ville militante, il y a plein d'acteurs, de collectifs, d'associations qui œuvrent effectivement au quotidien et qui font que la vie est plus. Et plus sympa quand même à ce rôle-là.
Message adressé à tous les jeunes qui nous écoutent.
C'est clair et net. Engagez-vous.
Spécial dédicace. Et le rôle des syndicats, parce que j'y tiens, et puis on en parle beaucoup ici. Je voudrais vous faire écouter Jean-Pierre Mercier, qui est syndicaliste. Je crois qu'il est à Lutte Ouvrière, il me semble. Parmi les nombreux syndicalistes qui enfin sont invités sur les chaînes d'information continue, j'ai retenu ceci. Écoutez ce qu'il dit.
160 milliards d'aides publiques pour les grandes entreprises du CAC 40. 400 milliards pour les militaires. Alors il y a de l'argent pour les actionnaires, il y a de l'argent pour les militaires, mais pour les salaires et les retraites, il y a zéro. Ça peut pas passer. C'est fini ça. Basta. On n'en peut plus de cette politique. Et vous allez le voir dans la rue, dans les entreprises. Elle est là notre solution. Elle est là notre plan de salaire. C'est la grève générale dans tout le pays. Nous, les travailleurs, les salariés, on est propres. On paye nos cotisations à 100%. On paye nos impôts à 100%. C'est prélevé sur notre fiche de paye. On ne peut pas tricher. On ne triche pas. Par contre, du côté des patrons, pourquoi eux, ils ne payent plus leurs cotisations sociales sur les retraites? Pourquoi quand un patron, il embauche un jeune au SMIC, il a zéro de cotisations sociales à payer? Pourquoi eux, ils payent de moins en moins, voire plus rien du tout, et vous leur donnez en plus des milliards et des milliards d'aides publiques, et nous, on devrait payer par notre vie, par notre santé pour travailler plus longtemps. Et après, vous avez parlé du chômage des jeunes. Mais si les anciens, ils restent plus longtemps au travail, comment on fait la place pour nos jeunes? On ne peut pas faire la place pour nous.
Vous avez répondu.
Votre projet, il est à mettre à la poubelle.
Eh bien, implacable. Et alors, j'adore.
Limpide.
J'adore le journaliste, les deux d'ailleurs. Je vois qu'il essaye de l'arrêter. Jean-Pierre, il est parti. Et voilà, c'est implacable ça. Ce discours-là, mais n'est pas entendu évidemment par le gouvernement, mais même par certains politiques qui seraient plutôt proches de la gauche, mais qui n'entendent pas vraiment ça, qui ont été au pouvoir. Et quand on parle des riches, c'est très délicat comme discours à tenir. Mais oui, l'argent existe, tu disais, Jean. Jean-Marie, tu disais que ouais, l'argent était là, mais on ne savait pas où aller le prendre, quoi. Non ?
Moi, on l'a dit un petit peu.
Oui, bien sûr, on l'a dit. Ouais.
On l'a dit un peu. Oui. Bon, les aides aux entreprises sans contrepartie. Ce que j'ai dit aussi. Je perds mon fil. bref, non, mais l'argent, il existe. En tous les cas, les arguments présentés et développés par Macron ne sont pas justes par rapport à ça, parce qu'on sait que l'argent existe, on peut aller le chercher. Voilà. Il suffit de voir aussi, par exemple, la fortune de notre Arnaud, Bernard Arnaud, voilà, chercher le prénom.
Oui.
C'est complètement scandaleux.
L'homme
quoi.
Le plus riche du monde, actuellement.
Voilà. Oui. Et plus riche de France, le plus riche du monde. Donc il y a effectivement un partage des richesses nécessaires, un partage du travail aussi, parce que sur le fond, c'est aussi ce qu'on propose. Et vraiment une réflexion sur le sens du travail, sur le sens du travail. Et en parallèle du sens du travail, sur le sens de la vie aussi. C'est quand même important quand je vois des jeunes ici autour de moi. Moi, je ne fais plus partie de cette catégorie. Je crois que le sens du travail, le sens sens de l'avenir, c'est quand même essentiel. Hein, la retraite, c'est aussi pour ça. C'est fait aussi pour ça. C'est fait pour aimer, pour passer du temps, pour faire des choses. Et là, c'est pas possible, quoi. La manière dont les choses se passent là, c'est pour ça qu'il faut contester cette retraite à 64 ans, parce qu'à 64 ans, malheureusement, beaucoup de salariés ne sont plus en excellente santé, ça a été dit. Donc, voilà. Et l'argent, il faut aller le chercher là où il est.
Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle, on avoisine les 10 millions de pauvres, de personnes sous le seuil de pauvreté en France. C'est-à-dire que pendant que les actionnaires ont battu les records, là, enfin, les dividendes en direction des actionnaires, ça, on a battu les records en 2022. Pendant ce temps-là, on est quasiment à 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France en 2020, enfin en 2023, quoi. Donc moi, ça, c'est partie. Un truc de dingue. Et je pense aussi à, par exemple, le Relais Orléanais, pour ne pas le citer, qui a inauguré ses nouveaux locaux. Oui. Et c'est très bien. Et il le mérite parce qu'ils font un travail de dingue au quotidien. Mais plus 40% de repas partagés,
oui, bien sûr,
par rapport à l'avant-Covid. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, c'est le combat des retraites, pour les retraites. Mais c'est pour une vie beaucoup plus digne. Le combat des Gilets jaunes, c'était pour vivre dignement. Et non plus survivre. C'était vraiment ça, quoi, le combat. C'était arrêtons le massacre, quoi.
Le Relais, c'est un endroit à Orléans, hein, je le dis pour les auditeurs et auditrices de Tours,
oui, bien sûr, pardon.
Qui accueillent les SDF ou des personnes à la rue et qui leur donnent à manger, qui leur donnent un temps pour se réchauffer et tout ça.
Tout à fait.
Et qui vient d'avoir des nouveaux locaux. On va y aller pour cette émission très bientôt dans un bâton rompu. On ira faire une visite au Relais d'Orléans.
Je voulais simplement rajouter par rapport à ce qu'a dit Charlie, mais ce qu'on a dit aussi avant sur où est l'argent, comment aller chercher l'argent. Le rapport d'Oxfam, hein, suite... Au forum de Davos, dit ceci, c'est qu'un impôt qui pourrait être venir taxer les multimillionnaires et les milliardaires du monde, un impôt d'un chiffre de 5%, permettrait de rapporter 1700 milliards de dollars par an, soit une somme suffisante pour sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. Donc l'argent, il est quelque part. Il est chez les multimillionnaires et les milliardaires. Et ça permettrait effectivement de réduire la pauvreté, puisque tu parlais effectivement du Relais Orléanais. Moi, je peux parler des quartiers populaires. Je peux parler du quartier des Blossières, où dans le cadre de mon action associative, on a créé un atelier culinaire solidaire en direction des étudiants des quartiers Blossières, Gare et Acacia. Et une aide alimentaire, parce qu'en lien et en partenariat avec la Banque alimentaire, parce qu'aujourd'hui, la préoccupation, et ce n'est pas forcément ce public qu'on voit dans les manifs, c'est pour ça qu'il reste tout un travail d'éducation populaire à faire pour les amener et les mettre debout, toutes ces personnes pourraient aussi revendiquer un certain nombre de choses et participer. Et je pense que c'est ça qui est important. Important dans le temps, dans la durée. C'est un travail de longue haleine. Et on devrait pouvoir réduire effectivement les inégalités. Le rapport d'Oxfam, moi, j'invite à le lire dans ses conclusions. Il est assez parlant.
Il y a même un prix Nobel d'économie, l'Américain, qui a dit qu'il fallait taxer les riches à hauteur de 70%. Voilà. Non, mais vous voyez où on en est rendu. Ils appellent Joseph Stiglitz. Il est à lire, ce monsieur.
Ah oui, moi j'en avais lu du Stiglitz. C'est un Suisse, il me semble.
Non, il est américain. Il est américain.
Ah bon ?
Il a été
pris d'économie.
Oui, il a fait cette sortie il y a deux jours.
Juste un truc peut-être par rapport justement au quartier populaire. Ça fait 40 ans que l'on parle de politique de la ville, donc de priorité, de quartier prioritaire.
Oui.
Ça fait 40 ans qu'on parle de quartier prioritaire. Il y a un problème, quoi.
Oui, c'est vrai.
On parle d'une priorité depuis 40 ans.
C'est vrai.
Donc ça veut bien dire que c'est un mensonge institutionnalisé, cette histoire. Ça me fait penser à... J'ai lu un article de Jacques Rancière, le philosophe, qui parlait qu'aucune institution n'émancipe les gens.
Ça fait
réfléchir sur la notion d'éducation populaire, encore une fois, à visée de transformation sociale.
Ça va être la dernière question, parce que tu en parlais tout à l'heure, Charlie, c'est les personnes de ces quartiers populaires n'osent pas sortir pour aller manifester spontanément.
Oui.
Quoi faire ? Parce que moi, je l'ai vu, j'ai habité longtemps dans le quartier populaire de La Source. Effectivement, je l'avais vu. Mais quoi faire ?
Mais c'est de l'éducation populaire plus. Éducation populaire dans le sens, aujourd'hui, quand on voit le nombre... Enfin, moi, j'ai commencé l'animation. On était quatre permanents pour s'occuper de 15-18 ans sur le quartier des Blossières et des Murlins à l'époque. 4 animateurs à plein temps, juste pour les 15-18 ans. Mmh. Aujourd'hui, sur les quartiers, on est 3 pour s'occuper de 0 à 77 ans. Ouais. Donc, il y a, une question de moyens humains. On préfère mettre des caméras que des personnes. Il y avait une police de proximité. Aujourd'hui, les polices de proximité, c'est très rare. Il y a certaines polices municipales qui font l'effort, justement, d'aller un peu plus proche des gens, mais c'est encore trop rare. Il y a un ensemble de choses. Enfin, ça me fait penser. On a beaucoup moins d'acteurs sociaux. Pourtant, on en a. Mais il y a un problème de coordination et il y a un problème aussi de qualification. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, si je pense juste à notre métier, animateur socio-culturel, aujourd'hui, il y a des médiateurs sociaux qui sont arrivés. Il y a des médiateurs culturels, tous sur des statuts précaires. Donc, comment peut-on faire comment des précaires peuvent s'occuper de précaires et comment peut-on parler d'émancipation si nous-mêmes, on ne sait pas le 3 mois plus tard ce que l'on devient, quoi.
C'est sûr. Ça vaudrait une émission, ça. Hein, parce que
quand tu veux. Oui. Quand alors, tu veux.
Je rajoute simplement, je crois que ce qui est important, c'est la mobilisation des citoyens des quartiers populaires.
Oui. D'accord.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, avec l'association dont je suis président, c'est effectivement donner la possibilité aux gens d'être debout. Le problème, c'est d'être debout quand ton frigo est vide à la fin du mois, quand tu n'as pas effectivement de quoi coûter, quand tu as des problématiques qui s'engendrent avec les enfants, la scolarisation, quand tu vis seul avec plusieurs enfants, etc., c'est compliqué. Mais j'amène la preuve, mais...